Répartition.
Capitalisation.
Assurance groupe.
Fonds de pension.
Âge légal.
Âge effectif.
Pré-retraite.
Pilier.
Pension.
Savez-vous comment fonctionne le système des pensions en Belgique?
Absolument pas.
Non, pas trop, non.
On cotise pendant toute sa vie quand on travaille, et puis à la fin, du coup, il y a une caisse et on peut puiser dedans pour avoir de l'argent.
Ah non, j'en ai absolument aucune idée.
Pas du tout.
Je sais qu'on paye des cotisations sociales et par... plus on paye, plus on sera mieux après, parce qu'apparemment, ils vont après nous redonner tout ce qu'on a payé.
Les trois piliers, ça vous dit quelque chose?
Les trois
piliers.
Non. Non plus, je sais pas ce que c'est.
Aucune idée, non. Non plus.
À l'instar de ces étudiants, peu de Belges connaissent le fonctionnement du système des pensions. Pourtant, dès leur entrée sur le marché du travail, tous vont devoir cotiser pour ce système. Pour mieux en profiter plus tard, rien n'est moins sûr. Selon nos politiques, sans adaptation de l'actuel système, la Belgique risque à l'avenir de ne plus pouvoir assumer le paiement de ses pensions.
Pour comprendre l'avenir du système des pensions, étudions son mécanisme. Il existe trois types d'allocations de pensions et donc trois manières de cotiser. C'est ce que l'on appelle les trois piliers. Kungur Karakaya, chercheur en économie à l'Université libre de Bruxelles, nous explique leur fonctionnement.
Le premier pilier, c'est le plus gros pilier, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt un système par répartition. La population active finance les allocations de pension des personnes âgées. Le second pilier, donc, c'est des pensions privées qui se font à partir d'assurances groupes. C'est par capitalisation. Le troisième pilier, c'est aussi par capitalisation. C'est une épargne individuelle de la part des gens qui décident donc d'épargner pour sa pension. Donc ça peut être via des compagnies d'assurance, via des fonds privés.
Concentrons-nous d'abord sur le premier pilier qui concerne actuellement plus de 2 millions de pensionnés. Chaque mois, les travailleurs cotisent près d'1,5 milliard d'euros pour assurer les revenus de leurs aînés. Mais quelles sont les conditions pour bénéficier d'allocations de pension? Et sur quelle base sont-elles calculées? Pour le savoir, nous avons rencontré Robert Mahouet, agent de service public à l'Office national des pensions.
Actuellement, l'âge normal de la pension, c'est 65 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et alors, si on justifie de 35 années de carrière, on peut être pensionné à 60 ans. Donc en fait, la pension calculée sur base de l'ensemble de la carrière professionnelle, donc toutes les années entrent en ligne de compte. Qu'est-ce qui est pris en considération? Ce sont les rémunérations, mais aussi les périodes assimilées. Donc quelles sont les périodes assimilées? Ce sont les périodes de chômage, d'invalidité, de maladie. Elles sont assimilées à partir du moment où l'intéressé bénéficie des indemnités de sécurité sociale.
Pour définir le montant de la pension d'un salarié, un petit calcul s'impose. Prenez les années de sa carrière et divisez-les par 45. Ensuite, multipliez cet indice par 60% de son salaire moyen s'il vit seul et par 75% s'il est en ménage. Ainsi, la pension est calculée sur la base d'une carrière idéale de 45 ans. Ce chiffre a été choisi à une époque où les travailleurs quittaient tôt les bancs de l'école et ne correspondraient plus à la réalité selon Paul Pasterman, juriste au service d'études de la CSC.
Dans quel cas est-ce que le système légal n'est pas tellement favorable ou que quelqu'un peut juger qu'il n'est pas suffisant? Premier cas, la carrière n'est pas complète. Donc les gens qui commencent leur carrière après 20 ans, avoir 45 années de carrière à l'âge de la retraite, c'est-à-dire à 65 ans, ça n'existe pas.
En moyenne, la pension du premier pilier s'élève à 1 000 euros pour les hommes et 800 euros pour les femmes. C'est pour assurer des revenus supplémentaires que le deuxième pilier a été mis en place dans certains secteurs. Pour le financer, travailleurs et employeurs cotisent au sein d'institutions de pension, dont la majorité est regroupée au sein de l'Association belge d'institutions de pension, l'ABIP. Bart De Wit, conseiller.
Les fonds de pension deuxième pilier, les IRP, instituts de retraite professionnelle, ils sont gérés et fondus par des partenaires sociaux ou par l'employeur tout seul. Ils fonctionnent comme une HBL.
L'argent, de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent.
Voilà ce qui en est du fonctionnement actuel. Qu'en sera-t-il à l'avenir? Le gouvernement fédéral a lancé en 2009 la Conférence nationale des pensions. Elle rassemble des partenaires sociaux chargés de réfléchir à l'avenir des pensions et notamment à son financement. Kungur Karakaya nous explique l'origine du problème.
Avec les faibles taux de fécondité, avec l'espérance de vie à la hausse, avec l'effet baby boom, énormément de personnes qui vont atteindre l'âge de la retraite à partir de 2010, entre 2010 et 2020, évidemment, ça peut poser un problème au niveau des finances publiques. On peut se dire, voilà, donc comme il va y avoir énormément d'individus qui vont sortir de la vie active, donc il faut évidemment les financer. Donc la population active va se réduire considérablement et le nombre d'individus qui va aller à la retraite va augmenter énormément.
Pour résoudre les effets du papy-boom, la Conférence nationale des pensions envisage plusieurs pistes reprises dans un livre vert. Une des premières pistes serait d'augmenter le taux d'activité des travailleurs âgés de 55 à 65 ans. Une mesure qui plaît à Bernadette Adnet, première conseillère au département social de la Fédération des entreprises de Belgique.
Il y a un consensus avec lequel nous sommes aussi d'accord, c'est augmenter l'âge effectif de retraite. Mais ça n'empêche pas, selon nous, de programmer à plus long terme, comme beaucoup de pays le font déjà actuellement, une augmentation de l'âge légal de la retraite. Donc un passage de 65 à 67 ans.
Un avis que ne partagent pas les syndicats, dont la FGTB, Daniel Vandal, secrétaire fédéral du syndicat socialiste.
Vous ne croyez pas que les travailleurs et les allocataires sociaux sont suffisamment payés, qu'on arrête de les embêter avec l'âge de la pension et qu'enfin, le gouvernement s'attelle au vrai problème qui est le problème de l'emploi pour les jeunes surtout.
Plus d'emplois chez les jeunes n'était-ce pas l'objectif du système des prépensions apparu dans les années 70? Réponse de M. Caracalla.
L'État, les syndicats, les partenaires sociaux ont favorisé, ont privilégié les plans de pré-retraite en se disant « ça va créer plus d'emplois pour les plus jeunes ». Mais on s'est rendu compte, lorsqu'on analyse les séries statistiques à plus long terme, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Les pré-retraites n'ont pas généré plus d'emplois pour les plus jeunes. Et c'est pour ça que maintenant, actuellement, on s'attaque, donc les gouvernements s'attaquent plus aux plans de pré-retraite.
40 ans plus tard, le système des prépensions est toujours aussi vivace. Pourtant, il n'apporte pas les effets voulus. Pourquoi ? Les employeurs rechignent-ils à garder leurs travailleurs âgés ? Ou les travailleurs sont-ils pressés de quitter le marché du travail ? Bernadette Adnet, FEB.
Donc je pense qu'on est tous les deux coupables à ce niveau-là. Et tant qu'au niveau politique, on n'aura pas eu le courage de prendre ces mesures, les patrons les utiliseront et les travailleurs les demanderont. Il n'y aura pas de changement de mentalité.
L'usage du système des pré-retraites par les employeurs irrite particulièrement la FGTB. Daniel Vandal.
Entre 25 et 55 ans, en Belgique, nous avons un des taux de compétitivité les plus hauts au monde. Alors, si vous exploitez les travailleurs entre 25 et 55 ans, à un moment donné, j'estime quand même qu'ils peuvent être fatigués et partir un peu plus vite. Alors la pré-pension, la pré-retraite, ce sont des modalités plus soft d'une certaine façon, mais c'est quand même un préavis, c'est quand même mettre les gens dehors. Alors maintenant que les entreprises viennent nous reprocher à nous que le taux d'activité des plus de 55 et 60 ans est trop bas, alors que ça leur sert à eux quand nous sommes sur le terrain, il y a quand même un petit peu d'honnêteté intellectuelle qui n'existe pas.
Si le système des pré-pensions n'encourage pas l'emploi des jeunes, l'État devra-t-il jouer sur le montant des allocations de pension? Qu'en pense la FEB?
Nous ne plaidons pas pour une révision à la baisse des pensions parce qu'elles sont déjà trop basses, mais je pense par exemple aux journées assimilées où nous estimons qu'il faudrait donner un poids moins important par rapport aux journées de travail. À l'heure actuelle, elles sont sur pied d'égalité et donc nous estimons là qu'il faudrait montrer aux gens qu'une année de travail compte plus dans la pension qu'une année assimilée.
La FGTB va plus loin et propose d'augmenter les allocations de pension en mettant à contribution les travailleurs, les employeurs et l'État. Monsieur Vandal nous explique comment.
Nos représentants, nos délégués syndicaux ont estimé que s'il fallait faire un effort pour pouvoir revaloriser les pensions en prélèvement 1% supplémentaire sur les salaires, qu'on n'était pas contre à partir du moment où ce pourcent était aussi payé par les patrons et ce pourcent était aussi payé par l'État. 1% de la masse salariale, c'est à peu près 1 milliard. Vous faites fois 3. Avec 3 milliards, on peut facilement revaloriser les plus basses pensions et les pensions et même les porter à un taux de remplacement qui pourrait friser les 75%.
Une solution qui ne convainc pas le patronat représenté par Madame Adnet.
On ne peut pas relever les pensions légales. Budgétairement, ça va coûter beaucoup trop cher. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il faut généraliser beaucoup plus le deuxième pilier pour assurer un complément de pension et assurer le maintien justement d'un certain niveau de vie.
L'argent, ça va, ça vient. Ça vient, ça va, ça vient, ça va.
Changer l'âge effectif de la retraite, augmenter ou diminuer l'âge légal, revaloriser ou non les allocations de pension, tenir compte des journées assimilées ou seulement des journées de travail, les négociations entre les partenaires sociaux risquent encore de durer. D'autant plus que les sujets de discorde ne se limitent pas qu'au premier pilier. Le deuxième pilier ne fait pas non plus l'unanimité entre les syndicats et le patronat. Bernadette Adnet, FEB.
Le système en capitalisation reste toujours intéressant pour assurer l'équilibre entre générations, parce qu'avec un système en répartition, c'est la génération actuelle qui doit payer toutes les charges, tandis qu'un système en capitalisation, c'est beaucoup mieux réparti.
Le syndicat chrétien, quant à lui, est plus mitigé.
Les pensions privées ont une très grosse limite, c'est que c'est pratiquement impossible dans un système de pension privée de prévoir l'indexation et l'adaptation des pensions au bien-être. Or, avec l'espérance de vie qu'on a maintenant, vous vivrez comme pensionné presque autant que votre carrière professionnelle. Donc les pensions privées ne sont pas une réponse à d'éventuelles inquiétudes par rapport aux pensions légales.
Pourtant, le deuxième pilier concerne 60% des salariés. Une situation que prend en compte la FGTB.
Il y a à peu près la moitié, je veux dire, des salariés qui sont couverts maintenant par un deuxième pilier de pension. C'est une réalité, il faut gérer ça socialement. Ça veut dire que quand un travailleur est en période de chômage économique ou en maladie, ben nous estimons qu'il faut assimiler ces périodes en termes de travail pour le calcul de la pension au deuxième pilier, comme ça se fait dans le calcul premier pilier.
Nous l'avons compris, le financement du premier pilier pose problème. Qu'en est-il pour le deuxième pilier ? Nous savons maintenant qu'il est financé par une caisse commune aux travailleurs et aux employeurs. Ce système de pension complémentaire par capitalisation est-il plus sûr que le système par répartition ? Le deuxième, voire même le troisième pilier, seront-ils un jour amenés à remplacer le premier pilier ?
Je rappelle aussi qu'avant 55 pour les employés, avant 75 pour les ouvriers, il y avait déjà un système de capitalisation qu'on a abandonné parce que ce système ne répondait plus, je vais dire, aux besoins des gens. Alors qu'on arrête d'écouter ces publicitaires Assuralia et ces assurances qui vendent des produits qui, à un moment donné, sont soumis aux lois du marché et qui perdent de la valeur. Donc moi, je dis, le système par répartition est valable, est viable, il continuera à l'être.
Ainsi, selon la FGTB, l'association des assurances Assuralia entretiendrait un climat d'inquiétude afin de conclure de nouveaux contrats d'assurance groupe. Nous avons donc interrogé Bernadette Adnet sur cette affirmation.
Je sais qu'à un moment donné, des assureurs ont essayé de gagner des parts de marché en disant « les pensions, ça sera un grave problème, il faut donc investir dans les pensions complémentaires et troisième pilier ». Mais on sait très bien que la sécurité sociale serait indestructible. En Belgique, il y a un consensus pour la financer. Le tout, je vous dis, ça sera comment ?
Les institutions de pension font-elles aussi de la publicité pour leurs produits ? Bart De Witt s'exprime au nom de l'ABIP.
On ne fait pas de publicité, on ne fait pas de cri. Tous nos membres sont d'institutions not-for-profit qui ne font pas de profit, comme à l'époque c'était Jean HBL, maintenant c'est un statut spécial, mais aussi sans but lucratif. Donc les fonds de pension en soi ou l'association des fonds de pension n'a aucun intérêt à faire peur à des gens.
L'argent ça vaut, ça vient, ça vaut, ça vient, ça vaut.
Malgré nos multiples contacts, nous n'avons pas pu rencontrer le principal intéressé, à savoir le ministre fédéral des pensions, Michel Dardenne. Nous connaissons néanmoins sa position. Le ministre plaide pour relever le taux d'emploi des plus âgés, en les gardant 3 ans de plus sur le marché du travail. Dans les faits, un tiers seulement des plus de 55 ans sont toujours actifs. Et la moyenne d'âge de sortie du travail est de 59,6 ans.
Pour l'instant, le livre vert de la Conférence nationale des pensions ne constitue qu'un catalogue d'observations et de recommandations. Reste maintenant la phase cruciale des négociations. Au moment de boucler notre enquête, les partenaires sociaux devaient en effet se réunir. Cependant, aucun de nos interlocuteurs ne semble optimiste quant à d'éventuels changements dans notre système de pension. Celui-ci ne serait donc pas si mauvais que cela, mais pensez-y quand même.
Et vous, avez-vous un bon plan de pension ?
Moi personnellement non, je ne suis pas inquiet et j'ai pas de fonds de pension en particulier.
Moi effectivement j'ai besoin d'une assurance de groupe, ça, enfin d'une pension complémentaire, et effectivement la CSC me le paye par une assurance groupe.
Je suis dans une bonne entreprise qui s'appelle la FGTB quand même.
En plus de ma pension légale, j'aurai oui, une pension complémentaire qui n'est peut-être pas encore aussi belle que la pension de fonctionnaire, mais qui ne sera pas loin.
Mais moi, j'ai ma pension légale, tout simplement. Je n'ai pas de pension extra-légale, voilà. Donc, moi, je fais confiance au régime des pensions actuelles.
On a un plan « defined contribution », mais il faudrait que je revoie le règlement moi-même.
L'argent, de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent.